כפרה תגיד שירה לך ככה שאני בטוב ושאין לך בלילה את מי לאהוב אתה יודע שאין לך סיכוי מול הפה שלי מאמי כי אני חתולת רחוב
Bonsoir, merci d'être avec nous sur Radio J. Vous pouvez nous écouter sur radioj.fr et en DAB+, il est 18h. Bienvenue dans le Grand Journal. Mais bien sûr, pour débuter ce Grand Journal, les informations avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit.
Bonjour Eva, bonjour à tous.
L'Iran a tenté de dissimuler l'étendue des dégâts causés par des frappes israéliennes sur son territoire, Etanit.
Frappes menées contre Ispahan dans le centre du pays vendredi à l'aube, c'est ce qu'ont révélé des images satellites relayées par le magazine britannique The Economist. Elles montrent des dommages causés à la batterie du système de défense aérienne S-300 de fabrication russe sur la base militaire de la ville. Information confirmée par des responsables iraniens et occidentaux au New York Times.
Et puis c'est déjà le 202e jour de guerre contre le Hamas et Tsahal a visé 30 cibles terroristes dans la bande de Gaza seulement ces dernières 24 heures.
Dans le centre de la bande, les forces israéliennes ont repéré deux terroristes qui tentaient de tirer des roquettes vers le territoire israélien. Ils les ont éliminés et ont détruit la fosse de lancement et l'entrepôt de munitions attenants. Par ailleurs, des terroristes ont bombardé hier le port humanitaire en cours de construction au large de la bande de Gaza. Plusieurs matériaux américains ont été endommagés et une personne a été blessée.
La fameuse opération militaire à Rafah, dernière poche du Hamas dans la bande de Gaza, eh bien, le gouvernement israélien dit que ça avance.
Selon le cabinet de guerre, effectivement, qui se réunit en ce moment au quartier général de l'armée à Tel Aviv, 4 bataillons du Hamas seraient regroupés dans la ville la plus au sud de la bande de Gaza. Selon Tzahal, 2 brigades de réservistes ont été mobilisées pour des missions défensives et tactiques dans la localité. Depuis le début de l'offensive terrestre dans le territoire palestinien le 27 octobre, au moins 18 des 24 bataillons du groupe terroriste ont été défaits.
Et puis la guerre menée par le Hamas contre Israël, elle est aussi psychologique. Le groupe terroriste a publié hier la vidéo d'un nouvel otage. Il s'agit d'Hersh Goldberg Pauline, 23 ans. Le groupe terroriste a mis ses images en ligne sur sa chaîne Telegram.
Un appel urgent à l'action pour Tzahal alors que le groupe terroriste affirme détenir 30 officiers supérieurs de Tzahal et du Shin Bet. Écoutez son porte-parole Daniel Agari.
Nous ne négligerons aucune piste dans nos efforts pour retrouver nos otages. Cette vidéo de terreur psychologique n'est pas seulement un rappel de ce que le Hamas a fait le 7 octobre, elle rappelle à quel point ce groupe terroriste est malade, terrorisant également les otages et leurs familles. Aux parents de Hersh, Rachel et John, nous sommes de tout cœur avec vous. Nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour amener votre fils Hersh et tous nos otages à la maison.
Daniel Agari, le porte-parole de Tzahal, hier en conférence de presse, pour rappel, 133 personnes sont toujours détenues à Gaza en ce 202e jour de guerre.
Et puis on passe désormais au front nord où Tzahal a mené des frappes contre des cibles du Hezbollah en fin de matinée. C'est au Liban que ça s'est passé.
Notamment dans la ville de Baalbek, à l'est du pays. Pendant ce temps, le mouvement chiite a assuré qu'il continuerait à soutenir Gaza sur le terrain, quelles que soient les menaces israéliennes. C'est ce que rapporte le journal libanais Al-Akhbar. Cette déclaration intervient après que le porte-parole en arabe du premier ministre israélien a affirmé qu'Israël était prêt à prendre toutes les mesures possibles et appropriées contre le Hezbollah, qui selon lui entraîne le Liban dans la guerre.
Et puis dans l'actualité internationale, toujours l'antisémitisme virulent sur les campus aux États-Unis. Une quarantaine de personnes ont été arrêtées dans des universités de Californie et du Texas suite à des manifestations présentées comme pro-palestiniennes.
Le président de l'université du Texas, Jay Hartzell, a déclaré qu'il n'autoriserait pas une prise de contrôle de son université. Hier soir, plus de 100 manifestants ont été arrêtés à l'université Columbia à New York. Ils avaient installé un campement de tentes sur le campus. Réaction du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Ce qui se passe sur les campus universitaires américains est horrible. Des hordes antisémites se sont emparées des universités de premier plan. Ils appellent à l'anéantissement d'Israël. Ils attaquent les étudiants juifs. Ils attaquent les facs juives. Cela rappelle ce qui s'est passé dans les universités allemandes dans les années 30. C'est inconcevable, il faut arrêter cela. Cela doit être condamné sans équivoque, mais ce n'est pas ce qu'il s'est passé. La réponse des présidents d'université a été honteuse, mais heureusement, les responsables d'État, les locaux et les fédéraux, nombre d'entre eux, ont répondu de manière différente, mais il faut que davantage soit fait.
Le Premier ministre israélien dans une vidéo publiée hier soir sur ses réseaux sociaux.
Et puis, ces tensions dans les milieux universitaires américains s'exportent aussi en France. Des étudiants anti-israéliens ont été expulsés du campus de Sciences Po la nuit dernière.
Un site occupé par une soixantaine d'étudiants à l'appel du comité Palestine de l'école, déjà à l'origine de plusieurs mobilisations depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Il réclamait que Sciences Po Paris coupe, je cite, les liens avec les universités et les entreprises qui sont complices du génocide à Gaza. Selon la direction de l'établissement, la mobilisation des étudiants aurait provoqué hier soir un fort climat de tension pour les étudiants, les enseignants et les salariés de l'école.
Et puis la menace terroriste, elle reste forte en France à l'approche des JO.
C'est ce qu'a déclaré le préfet de Paris après l'arrestation d'un adolescent de 16 ans, en Haute-Savoie, soupçonné de vouloir commettre un attentat pendant les Jeux de Paris. Il était suivi au titre de radicalisation islamiste, Laurent Nunez.
L'état de la menace terroriste en France, d'une manière générale, elle est très élevée, avec encore une fois la propagande de l'État islamique, d'Al-Qaïda, qui incite à passer à l'action. Donc on reste extrêmement attentif. La menace, elle est toujours à un niveau très élevé. Elle le sera pendant les Jeux Olympiques. C'est pour ça que nous avons des gros dispositifs, même si, encore une fois, il faut rappeler qu'à ce stade, nous n'avons pas de menace caractérisée, dirigée contre les Jeux Olympiques.
Le préfet de Paris ce matin au micro de LCI. Par ailleurs, dans le sud de la France, un autre adolescent de 16 ans, soupçonné de préparer une tuerie de masse au lycée horticole d'Antibes, où il avait été scolarisé, a été interpellé en début de semaine au domicile de ses parents. Il souffrait de troubles psychiatriques et se disait fasciné par le terroriste néo-nazi Anders Breivik, responsable de la mort de 77 personnes à Oslo et à Utøya, en Norvège, en 2011.
La politique à présent avec le président de la République qui s'est invité dans la campagne des élections européennes en prononçant un grand discours sur l'Europe.
7 ans après la Sorbonne 1, le 26 septembre 2017, Emmanuel Macron a de nouveau déroulé ce matin une série de mesures pour passer à l'Europe puissance, un nouveau discours pour une Europe plus souveraine, perçue comme une entrée en campagne du chef de l'État, alors que son camp patine à 6 semaines des européennes. Notre Europe est mortelle et court le risque immense de se retrouver reléguée, a mis en garde le président dans son discours à la Sorbonne.
C'est aujourd'hui que se joue la question de la paix et de la guerre sur notre continent et de notre capacité à assurer notre sécurité ou pas. Et parce que l'attaque contre les démocraties libérales, contre nos valeurs, contre ce qui est le substrat même de la civilisation européenne, une certaine relation avec la liberté, la justice, le savoir, se joue maintenant ou pas. Nous sommes au moment de bascule et notre Europe est mortelle, simplement cela dépend de nous.
Emmanuel Macron, ce matin à la Sorbonne, le président qui s'est prononcé en faveur d'un emprunt européen pour investir dans l'armement. Une proposition qui vise à permettre aux Européens de garantir leur sécurité dans le contexte de la guerre en Ukraine.
Et puis pour finir, retour en Israël où des milliers de personnes ont assisté à la cérémonie des Birkat Kohanim devant le Kotel. C'était bien sûr ce matin à Jérusalem.
Une cérémonie organisée semi-striellement pendant les fêtes de Pessah et de Sukkot au moment de Shacharit. Les descendants des Kohanim ont prié devant le mur des Lamentations en s'enveloppant dans leur talit. La police israélienne a bloqué l'entrée du quartier musulman de la ville par précaution.
Merci Tanit Belaïch. On vous retrouve bien sûr tout à l'heure à 14h30 pour le rappel des titres.
Le Grand Journal. Eva Soto.
Radio J. Et nous ouvrons le chapitre politique de ce grand journal ce matin à 7h45 sur Radio J. Christophe Barbier recevait la présidente de l'organisation juive européenne, l'OJE.
Muriel Wakenin-Melki, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, même si tout le monde à l'écoute de Radio J connaît l'OJE, l'Organisation Juive Européenne. Pouvez-vous nous rappeler quand même ce que font les 55 avocats, c'est cela, qui travaillent sous votre présidence?
Oui. 55 avocats, un peu plus, un peu moins, ça dépend des années, mais là cette année effectivement on est un peu au-dessus des 55. On existe depuis 10 ans en fait, 10 ans, 10 années, on a été créé en fait en 2014, à l'été 2014. C'était une À l'origine, ça devait être une organisation qui était là pour défendre en fait la communauté juive au lendemain des émeutes en fait anti-juives qui s'étaient déroulées rue de la Roquette, à la synagogue ou à Sarcelles aussi où des magasins juifs avaient été brûlés et pillés. Et puis la première année, on était 5 ou 7 avocats, pas plus. La deuxième année, on a eu tellement de travail qu'on est passé à une vingtaine. Et puis après, très rapidement, on a eu notre rythme de croisière entre 40 et 50. Ça fait 10 ans qu'on lutte en fait devant toutes les juridictions en France, également devant la Cour européenne, pour défendre toutes les personnes qui sont victimes dans leur chair d'actes antisémites, mais également pour mener ce combat contre l'haine antisémite sous toutes ses formes. L'antisémitisme d'extrême droite, l'antisémitisme d'extrême gauche, l'antisémitisme en provenance de l'islam radical. On est présent dans toutes les affaires à caractère terroriste, dans tous les dossiers qui nous ont heurtés, qui nous ont bouleversés, que ce soit l'attentat aux Aratora à Toulouse en 2012, que ce soit l'hypercachère en 2015, que ce soit l'affaire Sarah Halimi. Certaines de nos avocates ont également plaidé dans l'affaire Mireille Knoll. Le procès Copernic, plus récemment, le procès Waffenkraft, aux assises des mineurs qui s'est tenu en mai dernier. L'attentat à Djerba également, dont le procès se déroulera en principe cet été à Djerba. Voilà, on est présent dans tous ces dossiers. Et bien évidemment, depuis le 7 octobre, on est encore plus présent parce qu'on lutte au quotidien contre la déferlante d'actes antisémites, puisqu'on était à plus de 1000% et je crois bien au-delà en vrai. Dans la réalité, on a mis en place une ligne bleue qu'on avait désactivée depuis 2014 et qu'on a réactivée en octobre 2023.
Pour qu'on puisse téléphoner et
pour qu'on puisse téléphoner, signaler des faits, pour que les personnes qui ont besoin d'avocats, qui ne savent pas vers qui se tourner, se tournent vers nous parce que nous offrons cette possibilité d'être assistée, d'être représentée par un avocat du début à la fin de la procédure.
Combien de procédures depuis 7 octobre liées à cette déferlante ?
J'ai pas de.
C'est des centaines.
Ouais, c'est des centaines. C'est clairement des centaines. On a atteint dans les périodes les plus intenses jusqu'à près de 60 dossiers traités par jour.
C'était Maître Muriel Waknin-Melki, la présidente de l'OJE. Demain, rendez-vous à 7h45 sur Radio J pour votre barbier du matin avec le journaliste Vincent Vantigen.
Moi, président de la République,
qu'il démissionne,
c'est de la poudre de perlimpinpin.
Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs.
Et comme chaque jeudi dans Hémicycle, on retrouve Mathieu Slama. Bonjour Mathieu.
Bonjour Eva.
Merci d'être avec nous comme chaque jeudi. Alors, on se souvient notamment du discours du Premier ministre Gabriel Attal à l'Assemblée nationale. Remettre de l'ordre dans les classes, remettre de l'ordre dans les familles, remettre de l'ordre à l'école. Et séquence ordre à nouveau récemment avec ces jeunes autour de Gabriel Attal dans un internat. Quand il leur a demandé s'ils étaient bien ici, ils ont dit non, pas vraiment. On a compris que c'était leurs parents qui les avaient forcés à y aller. Alors, pourquoi cette contrainte parentale vous pose-t-elle problème, Mathieu Slama ?
Alors, vous savez, Eva, Nicolas Sarkozy avait eu cette formule en 2007. Il avait dit, et c'était un des centres de sa campagne, hein, c'était de dire faut en finir avec mai 68. Bien, moi, ma conviction, c'est que Emmanuel Macron et Gabriel Attal veulent faire la même chose, en finir avec mai 68 et remettre de l'ordre et de l'autorité dans toute la société. Alors, c'est le grand discours là actuellement tenu par les macronistes et particulièrement par Gabriel Attal qui a fait vraiment de ce sujet le cœur de son identité politique, l'autorité, le retour de l'ordre de l'autorité, donc à droite toute, hein, évidemment. Et je pense que c'est pas neutre dans le contexte des élections européennes, on y reviendra peut-être. Mais donc, Gabriel Attal a décidé de faire l'autorité chez les jeunes le centre de gravité de sa politique. Et donc, avec cette fameuse séquence, notamment dans un internat, avec des jeunes autour de lui, notamment des jeunes des quartiers populaires, et moi, j'ai trouvé que c'était d'abord une scène assez humiliante, parce qu'elle était filmée, et qu'on voyait bien des jeunes qui n'avaient aucune envie d'être là, qui étaient mal à l'aise. Donc, il y avait une dimension humiliante. Et puis moi, ce qui m'a marqué, et je trouve que c'est très révélateur, cette phrase de Gabriel Attal, vous n'êtes pas content d'être là, ils disent non, et ils disent c'est tant mieux. c'est tant mieux parce que ça, on va vous remettre en droit chemin, etc. C'est un peu ça dans son idée. Donc finalement, un retour d'une vision de l'école, de la jeunesse, mais alors rétrograde. Là, on retourne avant mai 68, c'est-à-dire on va remettre de l'autorité chez les jeunes et les quelque part presque les dresser, quoi, finalement. Donc ça m'a beaucoup choqué.
Mais est-ce que remettre de l'autorité, c'est nécessairement revenir avant mai 68
D'une part, le discours autoritaire, en tout cas un peu à l'ancienne sur l'éducation, ça fait quand même penser à tous ceux qui considéraient que les expériences pédagogistes, etc., étaient des mauvaises choses et qu'il fallait revenir à vraiment une verticalité entre le jeune et l'adulte, premièrement, mais surtout, ce discours-là s'accompagne de politiques. Donc, les mesures évoquées, c'est l'atténuation de l'excuse de minorité. L'excuse de minorité qui est très importante dans notre système pénal. On ne juge pas un enfant comme on juge un adulte. C'est très important, c'est fondamental. Donc l'internat plus généralisé, le 8h-18h, notamment pour les quartiers populaires. Donc en plus, ça vise spécifiquement les quartiers populaires. Et moi, je trouve que c'est très stigmatisant. Et autre mesure qui nous vient d'ailleurs de l'extrême droite, c'est la punition des parents défaillants. C'est-à-dire, en fait, pour la plupart des familles, d'ailleurs souvent des mères célibataires, mais en tout cas des familles qui sont déjà dans très grandes difficultés sociales et dont les enfants, évidemment, se retrouvent plus en difficulté que les enfants de bonne famille.
Alors là,
et
donc, pour le coup, la punition.
Sont déjà,
alors là,
déjà
pour le coup, la punition des parents, c'est pas vraiment mai 68. Et c'est pas vraiment avant mai 68, parce que là, il s'agit pas de réinstaurer l'autorité, parce qu'en général, c'est les parents qui l'ont cette autorité, et eux-mêmes, là, pourraient se faire punir. Alors, justement, vous parlez des quartiers populaires, Mathieu Slama. Effectivement, il y a cette dimension dont vous parlez, une dimension qui peut être humiliante, une dimension stigmatisante, effectivement, parce que c'est toujours eux qui sont montrés du doigt. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de problèmes aussi dans ces quartiers.
Bien sûr, il y a des problèmes, mais c'est des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des problèmes de services publics. Et si on veut s'intéresser vraiment à la question de la violence des jeunes, donc déjà la violence des jeunes est stable depuis des années. Il faut arrêter avec les fantasmes du violence des jeunes qui exploserait, mais il faut pas nier non plus ce phénomène. Bon, on se rappelle dans les années 50 des blousons noirs, c'était des gangs de jeunes qui s'affrontaient de manière très violente. Enfin, on se rappelle, moi j'étais pas né et vous non plus Eva, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça a toujours existé, mais que si on veut vraiment s'intéresser à ce phénomène et à le combattre, c'est d'abord en s'intéressant aux causes sociales. C'est les inégalités, c'est la précarité qui produisent l'indélinquance, qui produisent le fait qu'un enfant des quartiers populaires va se tomber dans la drogue parce que finalement il est dans un environnement qui est très compliqué, un environnement social, économique, etc., etc. Donc, si le gouvernement voulait vraiment combattre la violence chez les jeunes, il s'intéresserait d'abord aux causes sociales de tout ça et de cela il ne parle pas.
Pourquoi il le fait pas?
Parce que je crois que c'est idéologique. Je vais vous donner un exemple qui m'a frappé et qui est dans une des mesures défendues par Gabriel Attal. Gabriel Attal veut imposer le fait que les élèves se lèvent quand le professeur rentre dans la classe.
Et on le faisait quand j'étais petite.
Alors, on le faisait, mais là, c'est une obligation. Gabriel Attal veut en faire une obligation. Donc déjà, moi, je trouve ça absurde dans un pays démocratique que l'État impose à des enfants de se lever quand le professeur rentre dans la classe. Mais moi, je crois que ça traduit idéologiquement quelque chose, la vision des macronistes de l'éducation et de la jeunesse. Pour eux, pour Gabriel Attal en particulier, il faut que la jeunesse respecte scrupuleusement l'autorité et que c'est comme ça qu'on fera des citoyens obéissants. Voilà, il faut l'école, c'est le lieu où on construit, on fabrique des citoyens obéissants. Moi, je dis le contraire. Je dis que l'école, c'est aussi le lieu de l'émancipation et de l'apprentissage de l'esprit critique. Et qu'un citoyen dans un pays démocratique, c'est aussi un citoyen qui sait refuser certaines autorités, qui sait désobéir quand c'est nécessaire et qui, exerce son esprit critique. Et c'est ça que l'école doit nous apprendre plutôt que l'autorité pour l'autorité, la soumission, l'obéissance, etc. Moi, je pense, comme à l'époque de mai 68, qu'il faut en finir avec cette espèce de dogme de l'autorité. C'est mon côté 68 art, ouais, que j'assume. Et que ce gouvernement qui se prétendait en 2017 moderne, progressiste, un gouvernement qui d'émancipation, etc., se retrouve aujourd'hui à tenir un discours que même Nicolas Sarkozy lui-même ne tenait pas, c'est-à-dire un discours à la droite de la droite.
Merci beaucoup Mathieu Slama pour cette chronique et votre regard sur l'actualité qu'on peut retrouver sur radioj.fr, sur notre chaîne YouTube. Et merci également à tous ceux qui nous écoutent en direct sur les réseaux sociaux.
Radio J, 14h-15h, Le Grand Journal, Eva Souto.
Vous êtes, me dit-on, de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci beaucoup. Nous sommes le 25 avril 2024. Ça fait 202 jours que 133 otages sont aux mains du Hamas dans la bande de Gaza. On pense à eux. À suivre, notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine.
Radio J, 15h-16h30, Cyrielle Sarah-Cohen.
Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi avec un invité.
Et je suis ravie d'être invitée à Radio J.
Des chroniques et un coup de cœur à vous faire découvrir.
Et ce temps de parole, honnêtement, est très précieux. Donc merci à vous.
À tout à l'heure.
Radio J.
Vous écoutez
Radio J.
Radio J.
Ça, c'est uniquement sur Radio J.
Radio J.
Radio J, 14h, 15h, le grand journal.
Eva Souto.
Nous sommes ensemble dans le grand journal sur Radio J. Vous nous écoutez à Paris et sa région sur le 94.8, partout sur radioj.fr, notamment en Israël, à Jérusalem, où nous partons immédiatement.
Radio J. Osé shalom bimrovmav.
Nous, ikablou. Noit nous, noit ikablou.
חברים, החדשות טובות. התחלנו לבלום את הדלטה.
ילדינו מסתכלים עליה. מה אנחנו רוצים שהם יראו?
פסקל זונשיין.
Et on retrouve à Jérusalem notre correspondante Pascal Sunshine. Bonjour Pascal.
Bonjour Eva.
Et Pascal, nous revenons bien sûr avec vous sur cette prière des Kohanim qui a réuni des milliers de fidèles ce matin à Jérusalem.
Oui, plus de 30 000 fidèles ont participé ce matin à la bénédiction des Kohen sur le parvis du Kotel à Jérusalem, la prière traditionnelle de la demi-fête de Pessah. Mais évidemment, avec une résonance particulière cette année, en raison de la guerre, le Rav Shmuel Rabinovitch, le rabbin du Kotel, a évoqué le sort des otages en présence de deux familles d'otages qui ont participé à l'office. Une autre prière s'est d'ailleurs déroulée ce matin en centre-ville, où plusieurs centaines de personnes ont prié pour les 133 otages, dont le jeune Hersch Goldberg-Pauline, dont le Hamas a publié hier un témoignage de vie sous forme d'une vidéo apparemment réalisé quelques jours avant Pessah. Hier soir à Jérusalem, mais aussi à Tel Aviv, plusieurs centaines de manifestants s'étaient rassemblés pour réclamer un accord d'urgence pour ramener les 133 Israéliens toujours captifs à Gaza. Les négociations, on le sait, sont dans l'impasse depuis que le Hamas a rejeté, il y a une dizaine de jours, la dernière proposition de compromis qu'avaient présenté les pays médiateurs. Le cabinet de guerre est réuni depuis la mi-journée et devrait être rejoint par les ministres du cabinet de sécurité pour envisager de nouvelles options pour la reprise des pourparlers, mais surtout pour discuter des plans de l'opération désormais considérée comme imminente contre le Hamas à Rafah.
Et justement, Pascal, sur le terrain, sur les fronts nord et sud, la tension reste de mise.
Oui, en attendant donc le feu vert du gouvernement sur cette offensive militaire à Rafah, Tsahal poursuit ses opérations ponctuelles dans la bande de Gaza, principalement dans le centre et le nord du territoire côtier où Tsahal a effectué plusieurs dizaines de frappes depuis lundi, notamment à Nusayra. Deux terroristes qui s'apprêtaient à tirer des roquettes vers Israël ont été éliminés par une frappe aérienne qui a aussi détruit les roquettes. Une autre frappe dans le camp de Shati a détruit une position terroriste du Hamas. Et puis sur le front nord, pas de nouveaux tirs du Hezbollah, mais situation toujours tendue en Haute-Galilée et sur le Golan, visé hier par les tirs de plusieurs dizaines de roquettes. L'aviation de Tsahal a frappé cette nuit plusieurs positions du Hezbollah au sud du Liban, notamment dans le secteur de Marouna Arras.
Merci beaucoup Pascal Sunshine, notre correspondante à Jérusalem. Toutes vos chroniques sont à podcaster sur radioj.fr.
Radio J.
14h, 15h.
14h, 15h.
Le grand journal.
Eva Souto.
Et c'est l'heure de retrouver le directeur exécutif du think tank Elnet France. Bonjour Arié Ben Semoun.
Bonjour Eva.
Merci d'être avec nous dans ce grand journal comme chaque semaine. Alors aujourd'hui, on parle avec vous de la loi d'aide des États-Unis à ses alliés promulguée hier après son vote au Sénat. Aide destinée à l'Ukraine et à Taïwan, mais pas que, puisque ça concerne aussi Israël et Gaza, Arié.
Oui, c'est une décision qui était très attendue par toutes les personnes et les gouvernements qui devaient recevoir et qui doivent recevoir cette aide, parce que évidemment on pense bien que la situation en Ukraine n'est pas en train de se clarifier, bien au contraire, l'offensive qui est menée par les Russes est en train d'étouffer la résistance ukrainienne. Taïwan, ça n'est pas encore la guerre, mais il faut s'y préparer. Et puis pour ce qui est d'Israël, on sait très bien que la guerre est loin d'être terminée avec le Hamas à Gaza. Il manque l'opération à Rafah. Et les Israéliens étaient très inquiets de savoir comment le Congrès américain se mettrait d'accord et de quelle manière et dans quelles conditions pour que cette aide qui a été promise aux Israéliens puisse arriver dans les meilleurs délais. Il s'agit bien évidemment de pouvoir acheter des munitions, préparer les combats futurs, assurer la supériorité militaire d'Israël à la fois dans la guerre contre le Hamas, mais également dans la perspective d'une confrontation plus large avec la guerre avec l'Iran, sachant que la guerre avec le Hezbollah a déjà commencé malheureusement depuis bien longtemps. Donc ces décisions sont très attendues et c'est bien qu'elles aient été prises maintenant.
Arié Ben-Semoun, dans quelle perspective faut-il lire également cette aide allouée à Gaza, une aide de 9 milliards, inférieure d'ailleurs à celle d'Israël?
Bien évidemment, d'abord parce que là, on n'est pas dans de l'aide militaire, on est dans de l'aide humanitaire. Et il vous a pas échappé, ni à nos auditeurs d'ailleurs, que les États-Unis sont en campagne électorale, que la majorité démocrate sur laquelle Biden compte pour pouvoir être réélu est profondément divisée par la situation à Gaza sous l'influence des groupes les plus extrémistes menés par les Tlaib, Omar et compagnie, et dont on voit bien les relais sur le terrain, dans les manifestations, dans les universités. La situation est extrêmement tendue et dans un certain nombre d'États, Joe Biden et les démocrates ont besoin de l'électorat pro-palestinien, anti-israélien, et il faut donc faire des concessions. Et c'est en cela que consiste cette aide humanitaire, entre guillemets, pour Gaza.
Elle ne consiste qu'en ça, Arié, parce que Gaza, c'est aussi aux frontières d'Israël.
Oui, ça n'est que de l'aide humanitaire. Alors après, la question, c'est comment cette aide va être utilisée, comment elle va être acheminée et vers qui dans la bande de Gaza. On sait bien que de toutes les façons, à un moment ou à un autre, et nous l'espérons le plus tôt possible, c'est-à-dire quand le Hamas aura été totalement défait, il faudra réfléchir à la reconstruction de Gaza, qui est très durement touchée parce que justement l'intégralité des infrastructures civiles ont été utilisées par le Hamas pour servir de base terroriste et de cache d'armes et de cache de terroristes et de lieux où ont été retenus des otages. Enfin, rien n'a été malheureusement épargné par le Hamas à Gaza avec les conséquences que l'on peut imaginer. Donc il faudra reconduire Gaza. On parlera à ce moment-là non pas de 9 milliards de dollars, mais de dizaines ou peut-être de centaines de milliards de dollars qui seront nécessaires pour rebâtir un avenir qui, nous l'espérons, sera débarrassé de la terreur, de l'enseignement à la haine et de l'hostilité envers Israël. Mais ça, c'est encore une autre histoire qui viendra beaucoup plus tard.
Pour en revenir rapidement avec vous, Arié Ben-Semoun, à cette histoire qui nous concerne, donc cette aide importante des États-Unis à Israël. Israël, que peut faire ce pays sans l'aide des États-Unis? Parce qu'on entend régulièrement sur la scène politique israélienne des personnalités qui disent finalement l'aide des États-Unis, c'est pas si important.
Voyons. Écoutez, les gens qui disent ça sont des irresponsables inconséquents. Je sais à peu près d'où viennent ce genre de comportements et ce genre de raisonnement. Ça ne mènera Israël nulle part. Israël et les États-Unis sont des pays amis et alliés. Cette alliance, elle est indispensable à la fois aux États-Unis et aussi aux Israéliens pour pouvoir mener les combats existentiels auxquels les Israéliens doivent faire face, mais les Américains aussi, parce que c'est aussi un combat sur les valeurs. Et malheureusement, on le sait très bien, on peut être attaqué militairement, on peut être aussi attaqué sur ses valeurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Donc cette aide, elle est indispensable. pour tous les systèmes d'armement dont Israël dispose et qui ont été fabriqués en coopération avec les Américains, souvent avec des financements américains. Donc les Israéliens sont très utiles aux Américains, les Américains indispensables aux Israéliens. Par conséquent, c'est une alliance qu'il ne faut en aucune manière affaiblir. Et tous ceux qui parlent de pouvoir se passer de l'aide américaine sont des gens qui sont dangereux et qu'on ferait mieux de laisser de côté.
Arié Ben-Semoun, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio J. Vous êtes le directeur exécutif du think tank Elnet France. Il est 18h30, merci d'être avec nous dans le Grand Journal. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio J. À suivre, le rappel des titres.
Bonjour Eva, bonjour à tous. Des dizaines de personnes, dont certains membres de familles d'otages retenus à Gaza, manifestent devant le quartier général de l'armée à Tel Aviv, où se réunit actuellement le cabinet de guerre qui discute d'une offensive à Rafah. Dans le sud de la bande de Gaza, ils réclament la libération de leurs proches. Un haut responsable politique du Hamas a déclaré à l'Associated Press que le groupe terroriste était prêt à accepter une trêve de 5 ans ou plus avec Israël et qu'il se transformerait en parti politique. Le tout à une condition, la création d'un corps hébreu. La décision a été adoptée à une écrasante majorité de 357 voix pour et 20 contre. Enfin, les forces de l'ordre sont intervenues dans la nuit sur un des campus de Sciences Po Paris. Elles ont évacué une soixantaine d'étudiants qui y tenaient un rassemblement anti-israélien.
Merci Etanit.
Le Grand Journal.
Eva Soto.
Radio J.
Tanit, on vous garde, vous restez avec nous pour votre portrait d'otage du jour. 133, c'est le nombre de captifs retenus dans la bande de Gaza par le Hamas. Ce jeudi 25 avril, 202 jours que tous ces innocents vivent l'enfer. En tout cas pour ceux qui sont encore en vie, d'après le Daily Mail, seuls 40 d'entre eux seraient encore vivants, on ne les oublie pas. Et cet après-midi, Tanit, vous vouliez nous parler de Hersh Goldberg-Pauline.
Et de la lutte menée par ses parents pour que lui et les 132 autres otages soient enfin libérés. Chaque matin, avant même de sortir de son lit, Rachel Goldberg-Pauline ainsi que son époux se saisissent d'un rouleau de ruban adhésif, prennent un marqueur et écrivent sur un morceau de scotch le nombre de jours de captivité de leur fils, Hersh, qui a donc été kidnappé par le Hamas le 7 octobre. Puis ils collent le ruban adhésif sur leur poitrine au niveau du cœur. Un geste d'autant plus symbolique au vu de la vidéo publiée hier par le Hamas sur sa chaîne Telegram. Une vidéo non datée de Hersh qui a été enlevée, vous le disiez donc, il y a 202 jours. Hersh Goldberg-Pauline, 23 ans, a été vu la dernière fois le 7 octobre au festival de musique techno Supernova à Reim. Des terroristes l'ont chargé à l'arrière d'un pick-up avec d'autres festivaliers eux aussi pris en otage. Pour rappel, lors de ce festival, plus de 300 personnes ont été tuées. On sait déjà que ce Californien de naissance a perdu une partie d'un bras quand les assaillants ont lancé des grenades dans l'abri où il s'était réfugié avec un groupe de jeunes. Et donc, dans la dernière vidéo publiée par le groupe terroriste hier, on entend le désespoir dans la voix du jeune homme qui aimerait que sa captivité prenne fin. Écoutez.
Emma, Abba, Libby, Orly. On aime beaucoup.
Maman, papa, Libby et Orly, je vous aime beaucoup, vous manquez beaucoup et je pense à vous à chaque instant que je me trouve ici. Je sais que vous faites tout votre possible afin que je revienne à la maison le plus vite possible.
C'est le visage plein de tristesse qu'il prononce ces mots, le teint blafard, la barbe et les cheveux rasés, quand avant le sourire ne quittait pas les joues de ce jeune homme bronzé en permanence, qui avait d'ailleurs les cheveux et la barbe en bataille sur une bonne partie de ses photos. Un appel urgent à agir pour Tsahal et surtout un outil dans la guerre psychologique que mène le Hamas contre l'État hébreu.
Depuis que Hersh a été pris en otage, sa mère sillonne le monde pour demander la libération de son seul enfant.
Un jeune homme mélomane qui rêvait de parcourir le monde avant de se faire embarquer par des terroristes direction Gaza. Sa mère et sa famille, qui ont quitté les États-Unis pour s'installer en Israël lorsque Hersh avait 7 ans, ont rencontré le président américain Joe Biden, le pape François, Elon Musk et des dizaines de journalistes. Rachel a même pris la parole aux Nations Unies et participé à des manifestations. Hier, elle réagissait avec son mari à la vidéo de Hersh sur les réseaux sociaux. Écoutez.
And Hersh, if you can hear this.
Hersh, si tu peux entendre ça, nous avons entendu ta voix aujourd'hui pour la première fois en 201 jours. Et si tu peux nous entendre, nous te le disons, nous t'aimons, reste fort, survie.
Une invitation à la résistance qui ne peut que nous pousser à prier pour que tous les otages soient libérés sans délai supplémentaire.
Merci beaucoup, Etanit Belaïch. On vous retrouve tout à l'heure à 15h pour le prochain point sur l'information.
Radio J, 14h, 15h, le grand journal.
Eva Souto.
Merci d'avoir choisi Radio J pour vous informer. À suivre, notre invitée Sarah Eisenman du collectif Nous Vivrons et retour sur l'antisémitisme sur les campus américains avec la chronique de Franck Tapiro. A tout de suite, merci de nous avoir choisi pour vous informer.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J.
Ça, c'est uniquement sur Radio J.
Radio J. Vous écoutez Radio J.
Radio J.
Radio J, 14h, 15h, le grand journal.
Eva Souto.
Nous sommes ensemble jusqu'à 15h sur Radio J. Vous nous écoutez sur le 94.8 en région parisienne, sur radioj.fr. Tout de suite, la lutte contre l'antisémitisme et contre l'invisibilisation des juifs en France.
Radio J, l'invité du grand journal.
Radio J.
Et notre invité, c'est Sarah Eisenman. Bonjour.
Bonjour Eva.
Votre collectif Nous Vivrons a émergé après le 7 octobre avec pour objectif de ne pas se taire face à l'antisémitisme, de faire entendre une voix juive en France. Vous vous êtes fait connaître à travers vos opérations, opérations coup de poing, on peut les qualifier comme ça, notamment lors de la marche féministe du 8 mars où face aux antisémites, vous avez dû malheureusement pour votre sécurité être exfiltré de la marche. Votre dernière opération à Nantes remonte à quelques jours. Racontez-nous ce que vous y avez fait.
Alors effectivement, nous nous sommes rendus à quelques-uns à Nantes dans la nuit de dimanche à lundi pour peindre un drapeau israélien aux côtés du drapeau palestinien qui trônait en plein centre-ville de Nantes depuis 6 semaines. Notre idée était la suivante. D'une part, on voulait dire non à l'instrumentalisation du conflit. Le drapeau palestinien n'avait absolument rien à faire en plein centre-ville de Nantes ou de n'importe quelle autre ville française. Et dire oui à l'autodétermination des peuples. Donc de redéfinir le sionisme, de bien rappeler que le sionisme, c'est justement un mouvement de libération des peuples et qu'on n'a aucun sujet avec ça. Et le message de paix qu'on voulait faire passer, c'est qu'il y avait bien de la place pour deux peuples, de la place pour deux nations et qu'une cause ne doit jamais en effacer une autre. Donc c'était très important pour nous, non pas de recouvrir le drapeau palestinien.
Non, effectivement, c'est pas ce que vous avez fait. Hein. Vous l'avez pas recouvert. Vous avez fait de façon à ce que les deux cohabitent sur ces marches.
Exactement. La cause palestinienne a tous ses droits et on soutient la cause palestinienne. C'est pas le sujet. Donc on n'était pas du tout dans une démarche vindicative. On n'était pas du tout dans une démarche d'opposition. Bien au contraire, on était là pour faire passer ce message de paix et bien entendu rappeler aussi que laisser des initiatives comme celle d'un drapeau palestinien à Nantes, ça ne fait que attiser l'antisémitisme qui se cache derrière un nouvel antisionisme et ce sont à la fin les juifs qui en payent le plus lourd tribut.
Et d'ailleurs, on l'avait vu puisque ce drapeau avait été félicité sur les réseaux sociaux par le GUD, un groupe d'extrême droite antisémite qui avait d'ailleurs aussi tagué ces marches. Alors depuis, tout ce que vous avez fait et puis également le drapeau palestinien a été effacé. Qui en a pris l'initiative et pourquoi?
Alors c'était une grosse semaine. Donc dans la nuit de dimanche à lundi, il y a eu ce drapeau israélien et on en était fiers. Hein. Le lendemain, c'était une super belle image que ces photos des deux drapeaux a collé à Nantes. Ensuite, le 36 heures après, le drapeau israélien a été recouvert de rouge. Probablement par les mêmes que ceux qui avaient peint le drapeau palestinien, mais eux, contrairement à nous, n'ont pas revendiqué leur action. Nous, nous l'avons bien indiqué dès le départ. Et donc, ça nous a quand même bien montré que ceux qui étaient à la manœuvre n'étaient absolument pas là pour défendre la cause palestinienne, mais étaient là pour rayer Israël de la carte. En fait, on parle d'antisionisme ici, on parle pas de pro-palestinien, c'est pas du tout le sujet. Le lendemain, la mairie de Nantes a décidé d'effacer les deux drapeaux, vous me direz heureusement, et donc on salue la démarche, puisqu'à nouveau, nous, on s'amuse pas à peindre des drapeaux israéliens en faisant le tour de France, c'est encore une fois absolument pas le sujet. En revanche, on regrette que la municipalité et la maire Johanna Roland n'aient pas condamné la démarche de ceux qui ont recouvert le drapeau israélien. Il a été évoqué des dégradations. Non, c'est pas des simples dégradations quand on recouvre un drapeau qui s'inscrivait dans une démarche de paix.
Alors, Sarah Eisenman, ça c'est pas votre première démarche, et vos démarches ont out en quelque sorte l'antisémitisme, puisque vous vous inscrivez dans des marches contre le racisme. Vous êtes allé d'ailleurs à la marche de dimanche dernier contre les racismes et l'islamophobie. Ce que vous avez entendu et recueilli comme témoignage était assez édifiant. Racontez-nous.
Alors pour nous, c'est quelque chose de très important, puisque au sein du collectif Nous Vivrons, nous sommes tous d'anciens militants de l'Union des étudiants juifs de France. On s'est battu toutes ces années contre l'antisémitisme, mais aussi contre le racisme. Donc pour nous, la lutte contre le racisme, ça veut dire quelque chose. Il suffit pas de le dire, en fait. Il suffit pas de dire qu'on est antiraciste pour lutter contre le racisme. Et c'est ce qu'on a découvert dimanche à cette marche qui partait de Barbès, qui en réalité était plutôt une marche de soutien à la Palestine, et j'ai plutôt envie de vous dire une marche de déclaration antisioniste qu'une marche de lutte contre le racisme.
Qu'est-ce que vous avez entendu ?
On y a entendu des slogans tels que « Votre chantage à l'antisémitisme ne marchera plus »,« Israël assassin »,« Les actions du Hamas le 7 octobre », c'était de la résistance. Enfin bon, tout ce qu'on entend depuis 6 mois et qui ne nous surprend pas, mais qui pour autant étonne, interpelle énormément au sein d'une marche contre le racisme. Et c'est ce qu'on est venu dénoncer en infiltrant cette mobilisation qui était évidemment courue d'avance, n'avait absolument pas pour ambition de lutter réellement contre le racisme et contre la xénophobie.
D'autant plus que l'antisémitisme n'était pas inclus dans les mots d'ordre.
Non, c'était une marche contre le racisme et contre l'islamophobie. Au regard de ceux qui en avaient pris l'initiative, on n'a pas jugé utile, comme on a pu le faire le 8 mars et le 25 novembre dans les marches féministes, de s'auto-inviter avec un cortège pour lutter contre l'antisémitisme. On ne lutte pas contre l'antisémitisme en défilant avec les antisémites.
Merci beaucoup Sarah Eisenman du collectif Nous Vivrons. On peut vous retrouver bien évidemment sur les réseaux sociaux, sur votre compte Instagram, sur X, Twitter. Merci beaucoup.
Merci Eva.
Le Grand Journal.
Eva Soto.
Radio J.
Merci d'être avec nous sur Radio J dans votre Grand Journal. Et tout de suite, nous retrouvons Franck Tapiro pour son ping-pong hebdomadaire. Et aujourd'hui, avec Franck, ça va cogner.
Ça va cogner, j'espère que ça va cogner, mais en revanche, ça cogne énormément dans les universités américaines. Et on le voit maintenant depuis des semaines, ce mouvement absolument épouvantable qui est en train d'envahir et de gangréner, je dirais, la relève. La relève, ce sont ces jeunes étudiants qui, logiquement, doivent prendre la relève dans les États-Unis de ces 20-25 prochaines années. Ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, la haine des Juifs, alors qu'avant, on va dire, culturellement, historiquement, on est habitué à ce que ce soit une haine du bas, on va dire, là, c'est une haine du haut, une haine de l'élite, une haine qui arrive maintenant dans les plus hautes sphères de la société, et notamment là où tout se joue, c'est les universités et les écoles. Donc il faut être très très inquiet de cela, parce que pour l'instant c'est une minorité hein, qui a un bruit majoritaire, parce qu'il suffit, vous êtes tout seul dans votre coin, vous faites un tweet qui cartonne, on a l'impression qu'il y a 100 millions de personnes qui vous ont vu, alors vous êtes tout seul dans votre coin. Là il commence à y avoir de plus en plus d'entrisme, des gens de l'extérieur des universités, des écoles qui rentrent parce qu'ils ont un kéfier, etc. et puis que les flics n'osent pas les toucher. En revanche, le plus grave, c'est qu'on empêche non seulement les étudiants juifs de rentrer dans la fac, mais les professeurs. On le voit avec le fameux Chaï qui...
Oui, le professeur.
Qui à Columbia, et pourtant ça ne provoque rien d'autre que cette indignation de la part de la communauté juive de New York.
Franck Tapiro, ça inquiète jusqu'au premier ministre israélien, même si c'est minoritaire. Comment vous expliquez que même le fait que ce soit minoritaire, que ça se passe aux États-Unis, un allié d'Israël, un pays qui n'est pas réputé, a priori, pour son antisémitisme, pourquoi, d'après vous, ça inquiète autant Benjamin Netanyahou?
Parce que dans la ville qui a vu, il y a 23 ans, deux tours tombées, envoyées par les extrémistes islamistes, qui sont un peu les mêmes, État islamique, ISIS, Hamas, tout ça, c'est vraiment exactement la même chose, le frérisme musulman et l'islamisme radical, l'islamisme politique. On dit comment, en 23 ans, qu'est-ce qu'on a raté pour voir aujourd'hui des porte-paroles donc de ces pilotes qui ont envoyé deux avions dans les deux tours, finalement avoir un bruit majoritaire. J'ai dit bien un bruit majoritaire. Encore une fois, on les voit aujourd'hui rentrer, rester dans des tentes et dormir sur le parvis des facultés, et des écoles, et des grandes écoles, quand on parle de Columbia, quand on parle d'Harvard. Attention, on parle des plus grandes écoles au monde. Donc voilà pourquoi c'est inquiétant. Deux, parce qu'évidemment, Israël a toujours été soutenu par son premier allié, que sont les États-Unis. Et trois, parce que finalement...
Il y a quand même, le plus grave, c'est finalement pour ces étudiants juifs. Ça, il faut quand même le souligner. Outre le fait de défendre ou pas Israël, c'est que les étudiants juifs ne sont plus en sécurité sur leur campus.
Ils ne sont plus en sécurité, et pire que cela, ils ne peuvent plus rentrer. Vous avez vu des chaînes humaines qui ne sont pas, se rappeler ces photos des années 30-40, où les nazis empêchaient déjà les étudiants juifs de rentrer dans des universités en Allemagne. Et il y a la même chose. Aujourd'hui, on empêche les étudiants juifs de rentrer dans leur fac. Alors moi, j'ai quand même quelques sources d'explications. Déjà, c'est que ça fait plus de 20 ans que l'entrisme du frérisme musulman est très 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 fort, et j'ai les chiffres. Ils sont là. Il faut savoir que aux États-Unis, voilà le financement depuis 2012 de toutes les grandes écoles. Alors, on donnait 3,281,809,223 dollars, le Qatar. Ensuite, la Chine, 1,733,394,910 dollars. Ensuite, l'Arabie Saoudite, Union arabe des Émirats unis, le Koweït, la Russie, la Turquie, l'Irak, le Liban, le Pakistan, le Venezuela, la Syrie et l'autorité palestinienne à 1,050,000 dollars. Ça veut dire quoi? Voilà le financement de toutes les grandes écoles et universités américaines. Voilà qui les finance. Donc comment être à ce point si naïf, stupide, pour imaginer que, bien entendu, derrière cet argent, ces cadeaux, comme on le dit, cet investissement, il n'y ait pas de retour sur investissement. Le ROI, Return on Investment, c'est un terme américain, fonctionne pour l'idéologie frériste et l'entrisme dans toutes les grandes facs américaines. Elle est là.
Là, il est question de frérisme, et il est aussi question d'antisémitisme qui peut s'inscrire également dans l'histoire politique américaine.
Arrêtons, vous savez, depuis 7 octobre, je n'arrête pas de dire, ne parlons pas d'antisémitisme, parlons de haine des juifs, parce que là on parle de sémites qui tuent d'autres sémites.
Les sémites, ça n'existe pas, n'existe juste la langue sémitique. Les sémites, ça n'existe pas.
Justement, c'est pour ça qu'il faut arrêter de parler d'antisémitisme. Il faut parler de haine des juifs. Ne faisons pas ce cadeau à nos ennemis. La haine des juifs, là, c'est la haine des juifs. Sous couvert d'antisionisme, l'antisionisme, de toute façon, quand on dit from the river to the sea, c'est quoi? C'est exterminer Israël, exterminer les juifs, les matins. Non. Parlons de haine des juifs, c'est vraiment...
Alors justement, dans l'histoire politique des États-Unis, ça s'inscrit aussi, cette histoire de haine des juifs.
Bien sûr, ça s'inscrit. Pourquoi? Parce que n'oublions pas qu'il y a toujours eu, d'ailleurs, dans la lutte commune des causes entre la lutte des Noirs américains avec Martin Luther King, et qui était soutenu par ses amis juifs, qui étaient des amis pro-israéliens, sionistes, parce que lui disait, on ne peut pas être antisioniste et ne pas être antisémite. Lui-même le disait, Martin Luther King. Donc comment ces deux causes qui étaient totalement liées, parce que pour les droits des Américains en 65, c'était ma date de naissance, 7 octobre 65, ça ne s'invente pas. N'oublions pas que s'il n'y avait pas eu tous les activistes juifs, peut-être que ça n'aurait pas fonctionné aussi bien. Donc comment ces deux communautés qui étaient tellement proches ont pu aujourd'hui se retrouver disloquées? Parce que quand on voit les Black Lives Matter aujourd'hui, ils sont parmi les premiers à revendiquer cette guerre contre les juifs, cette haine d'Israël, cette haine du sionisme. Donc on se dit qu'on a raté quelque chose. Encore une fois, il y a ce que j'appelle une implosion culturelle aux États-Unis qui fait qu'aujourd'hui, le juif est l'addition de toutes les haines. En gros, on arrive à fédérer des gens qui se détestent. Alors, ils arrivent bien entre sunnites et chiites. Du moment que l'ennemi, c'est le juif. Et ça, c'est nouveau. Moi, j'avais même fait des t-shirts à l'époque avec marqué « Jew York ». pour dire à quel point New York était la première ville juive au monde.
C'est la première ville juive au monde,
et
effectivement.
Et la première ville où les juifs aujourd'hui tremblent, parce que même à Brooklyn, les gens restent chez eux, ils ont peur. Regardez, demandez.
Il y a des attaques antisémites régulièrement à New York. Merci beaucoup, Franck Tapiro. On vous retrouvera bien sûr la semaine prochaine sur Radio J. Bonne fin de journée à vous.
Bonjour les auditeurs, à bientôt.
Le Grand Journal.
Eva Soto.
Radio J.
14h49, l'heure de retrouver Daniel Rouache pour sa chronique Israël Startup Nation. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour Eva.
Alors, le mois prochain aura lieu Vivatech à Paris et grâce à Maurice Lévy de Publicis, les Israéliens sont les bienvenus.
Effectivement, vous savez, c'est Maurice Lévy qui est le président de Vivatech. Il a monté ce salon avec d'autres partenaires du journal Les Échos. Et il a toujours tenu à ce que les Israéliens soient très présents. Ça va être le cas cette année également. Le Salon Vivatech, ça va être sa 8e édition. Il va offrir aux startups l'opportunité de présenter leur innovation. Ça va se passer à la Porte de Versailles pour nos auditeurs qui sont intéressés. Ça se passera du 22 au 25 mai 2024. C'est un endroit magnifique pour voir toutes les dernières technologies. Il va y avoir plus de 30 start-up israéliennes qui seront au salon. Il n'y a pas de stand spécial pour les Israéliens, mais ils seront dans différents lieux. On pourra les retrouver. Moi-même, je donnerai des informations quelques jours avant pour savoir où retrouver les Israéliens. Il va y avoir des start-up dans le monde du medtech, la médecine, la finance, crypto, le cyber, l'éducation. Et les chambres de commerce Israël-France et France-Israël seront hyperactifs lors de ce salon pour organiser des rencontres. Il va y avoir également des technologies qui correspondent et qui vont répondre à des défis dans les domaines du blockchain, cryptocurrency, santé, durabilité, numérique, mobilité et réduction des émissions du CO2 et la transition énergétique. Un point qui va être tout à fait original cette année, tout à fait nouveau. Il y a une mission israélienne qui va se rendre à Paris dans le domaine du sport quelques jours avant les Jeux Olympiques. C'est la première fois qu'on en parle et je voulais en parler ce jeudi après-midi. C'est le sport tech, le sport et technologie qui va être très très présent durant les journées de Vivatech. Ça va être les 22 et 23 mai. C'est une délégation de hauts dirigeants d'entreprises israéliennes conduite par le journal Kalkalist et la Banque Hapoalim. Qui organise un événement en amont des Jeux Olympiques de 2024. Il va y avoir des délégués de l'Export Institute, des organismes sportifs israéliens. Il va y avoir vraiment du beau monde pour mettre en valeur l'excellence, l'innovation, l'entrepreneuriat dans le monde du sport et technologie et d'annoncer la venue des Israéliens qui vont venir aux Jeux Olympiques. Donc une belle délégation avec des leaders, c'est absolument incroyable. Que l'Export Institute ait rassemblé des gens de cette valeur qui vont être à Paris. Il va y avoir également des conférences qui vont être organisées. Moi-même, je vais en organiser le 22 au soir au mois de mai. Et lors du salon Vivatech, il va y avoir Microsoft, Google, Meta, Amazon, Vidya, des grandes entreprises mondiales qui seront là. Les Israéliens seront dans le salon, seront très très visibles. Vous savez, les Israéliens font toujours du bruit dans les salons. Il suffit d'écouter un petit peu et vous entendrez l'hébreu un peu partout dans ce salon. Même s'il y a du monde, les gens auront l'impression que la délégation est énorme. Il y aura entre 30 startups, ça veut dire une centaine de participants israéliens, ce magnifique salon qui va rassembler le meilleur d'Israël.
Alors, justement, ce salon qui va rassembler le meilleur d'Israël, ce salon se déroule avant les JO et également en temps de guerre pour Israël.
Oui, effectivement, vous savez, le thème principal en Israël dans le monde de la technologie, c'est, comment dire en anglais, « the show must go on », le spectacle doit continuer. Les Israéliens, font tout pour donner l'impression que tout va bien, qu'il n'y a pas de modification majeure. Il y a des modifications importantes puisque les grands investisseurs mondiaux investissent un peu moins ici en Israël. On assiste à moins 20% des investissements mondiaux dans le high-tech. Mais les Israéliens ne se découragent pas. Ils savent que c'est un temps à passer. L'année 2024, c'est une année vraiment de folie. Le monde des startups israéliennes fait tout pour tenir la barre. Et apparemment, ça marche puisqu'on n'a pas une chute drastique du high-tech israélien qui permet à Israël de continuer sa course parmi les meilleurs au monde dans le domaine du high-tech.
Merci beaucoup Daniel Rouache pour votre chronique hebdomadaire sur Radio J, Israël Startup Nation. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Merci.
Radio J. Eva Soto.
Pour ce grand journal, on a le plaisir et le bonheur de retrouver le Rav Bruno Fison. Bonjour.
Bonjour.
Et évidemment, cette période de Pessah, avec vous Bruno Fison, on évoque aujourd'hui la symbolique de Pessah. Et tout d'abord, l'agneau pascal.
Eh oui, Pessah porte le nom de cet agneau qu'on offrait au Temple de Jérusalem. Hein, on appelait ça le Corban Pessah, le sacrifice de Pessah. Et c'est également cet agneau qu'eux ont sacrifié avant de sortir d'Égypte. Alors, quelle est sa symbolique, sa signification? On sait que l'agneau, le mouton, était un animal sacré en Égypte et par conséquent, l'abattre, le consommer, montrait une forme de d'émancipation, le geste libérateur que les Juifs eux-mêmes ont fait avant même de sortir d'Égypte. Mais ce qui est intéressant, c'est que le signe astrologique de cette période, que nous, c'est le signe du bélier. Du bélier, évidemment, ce que les gens pensent que il y a une influence des astres sur la vie des gens. Et nous, justement, en attendant cet animal, eh bien, nous montrons que nous nous dégageons de toute influence extérieure. Le peuple juif a donc son destin en main.
Le peuple juif prend donc son destin en main. C'est effectivement ça, bien sûr, la fête de Pessah, la fête de la libération, la fête de l'émancipation. Et puis également, ce qui symbolise totalement cette fête, y compris pour les gens qui ne sont pas juifs ou qui sont néophytes, c'est la fameuse matzah.
La matzah, le pain azim. Alors, c'est pas du tout un pain de régime, pas du tout. C'est pas du tout comme ça qu'on peut faire un régime. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la matzah, elle est toute plate, elle ne gonfle pas. Alors que le pain, qui a exactement l'ingrédient de base, lui, eh ben, c'est gonflé d'air. Eh bien, la symbolique, elle est claire. Le pain, ce qu'on appelle le chametz, c'est les produits interdits à Pessah, symbolise l'homme qui se gonfle de ses fausses certitudes, qui se gonfle d'orgueil. Et si on pense tout savoir, eh bien, on ne progresse plus, on ne s'ouvre plus à l'autre, on n'apprend plus. La matzah, elle est telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle ne se gonfle de rien du tout. Il y a de la farine, de l'eau, il n'y a pas d'air. Et elle représente finalement l'authenticité de la vérité. Et c'est le travail que nous devons faire à Pessah, c'est-à-dire essayer de voir pas tout ce que nous avons accompli, mais quel est encore le chemin à entreprendre et tout ce que nous pouvons encore faire pour nous construire nous-mêmes et construire notre société.
Alors Bruno Fison, on a un peu de mal à vous entendre, mais très rapidement, évidemment, c'est impossible de ne pas penser cette année à toute cette symbolique de Pessah, à la libération du peuple juif et à ces otages qui restent encore dans la bande de Gaza. 133 otages toujours dans la bande de Gaza, en Israël et ailleurs. Il a été demandé aussi une pensée particulière en ces soirs de céder pour ces otages.
Tout à fait. Tout à fait. Lorsque nous demandons la libération du peuple juif, nous pensons avant tout à ces otages. Dans l'histoire du peuple juif, il y a toujours eu des gens prisonniers et oppressés. C'est un peu le lot de l'histoire. Eh bien, nous demandons la libération de tous nos otages, qu'ils puissent rentrer sains et saufs pour être très rapidement d'autres fêtes ensemble.
Merci beaucoup Rav Bruno Fison. Donc on retrouve votre chronique à podcaster sur radioj.fr et puis Chag Sameach. Merci.
Chag Sameach.
Merci.
Radio J, 14h-15h, le grand journal.
Eva Soto.
C'est la fin de votre grand journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radioj.fr et sur toutes les plateformes. À suivre sur Radio J, le meilleur de la musique israélienne et de l'humour juif. Rendez-vous demain 14h pour un nouveau grand journal.
Vous écoutez
Radio J.
Radio J.
C'est uniquement sur Radio J.